RMC, face aux grandes gueules.
Notre invité, c'est le député MoDem, Richard Ramos, député MoDem du Loiret. Bonjour, monsieur le député.
Bonjour à toutes et à tous.
Est-ce que Gérald Darmanin aurait dû présenter sa démission ?
Non. Moi, j'étais député quand il était ministre de l'Intérieur. Ça répondait quand j'avais besoin de lui. Et donc, je pense qu'il est l'homme de la situation. On verra ce qu'il fera après. Il sera jugé après. Mais en tout cas, c'est un pragmatique. Moi, je l'ai eu comme ministre de l'Intérieur. Et quand j'avais besoin de lui, il était là. Je vais vous donner un exemple très concret. On aide une jeune femme. Elle s'est fait lacérer au cutter. Elle arrive au commissariat à Orléans. Et à l'époque, elle dit « Je vais porter plainte ». On lui dit non. Elle dit « Je connais le député ». La réponse est « Et moi, je connais le pape ». J'ai appelé Gérald, on a réglé le problème. Et donc, je pense que...
Donc, il faut appeler, il faut connaître...
Connaître le député.
Mais c'est ça le problème.
Le
il est là le problème.
Ministre pour que certains soient entendus.
Et je vais vous donner plein...
C'est tragique,
mais c'est tragique. C'est tragique. C'est pour ça qu'on porte une part de responsabilité. Je vais vous donner un autre exemple. Là, il y a 15 jours, c'est avant les événements. Vous pourrez venir en circo regarder.
La mort de Liana, c'est ce que vous
dites. Oui, la mort de Liana. Une jeune fille, dans ma circo, abusée dans le domicile familial, par un proche. Le type, il est mis en prison. Je demande, le père m'appelle. Il me dit, Richard, monsieur le député, elle veut changer d'appartement. Vous imaginez que c'est quand même normal qu'elle veuille changer d'appartement là où elle s'est fait abuser. Et les logements sociaux, ils n'en ont rien à faire que je sois député ou pas député. On me dit, mais ça va être long. Mais non, c'est un logement prioritaire qu'il faut lui donner.
Oui, enfin, c'est pas du tout dans votre mission de faire ça.
Mais si, c'est notre mission. Moi, je suis député de terrain, je suis député d'abord de circonscription.
Mais c'est ma mission. Écrit par qui ?
Je suis, par moi, parce que je suis la courroie de transmission des relations de ceux qui n'en ont pas ou pas assez. Arrêtez de penser que c'est que des textes qui servent à rien. On est nous sur le terrain, on est des gens qui viennent nous voir parce qu'ils n'ont pas de solution.
Non,
c'est d'abord ça
le député. Vous soyez désemparés, mais dans ce cas, il faut changer la loi.
Comédien, vous êtes de
Venez avec moi. On prend date. Vous venez avec moi 15 jours. On verra
monsieur
si c'est une
Ramos,
comédien.
15 jours, c'est long.
Je ne vous souhaite pas 15 jours avec Jean-Loup
Bonnet.
Moi non plus. Mettez à la limite 15 minutes.
Non.
Oui, mais attendez, parce que là, on parle de quelque chose.
Monsieur Ramos, je comprends que vous soyez absolument indigné par la situation. Non. On l'est tous, qu'on soit député ou qu'on soit un simple citoyen. Vous avez plus de pouvoir que nous pour changer les choses. Et là, vous dites, vous faites la justice tout seul dans votre circo. Mais personne ne vous a demandé de faire ça, puisque dans la loi, c'est pas votre mission et c'est pas votre mandat.
Si,
en revanche, votre mandat, c'est de faire la loi. Sauf que vous n'êtes pas foutu de trouver des majorités à l'Assemblée pour faire passer la loi intégrale qui est demandée par le terrain et qui est demandée par 100 associations et plus de 110 députés. Vous n'êtes pas foutu de dépasser vos guerres d'ego pour dire Attal ou Philippe, ça m'est égal. Ce qui m'importe, c'est une loi efficace pour les victimes. Vous n'êtes pas foutu de dépasser. Et je vous parle à vous en tant que député, mais je dirais la même chose à toute la classe politique aujourd'hui. Vous n'êtes pas capable de légiférer sur des sujets qui font l'absolu consensus, comme mettre les pédocriminels en prison. Tiens, il n'y a pas de clivage là-dedans, on est tous d'accord. Donc en fait, comme vous n'êtes pas capable de faire votre travail, vous essayez de trouver à Madame X ou Monsieur Y un logement social. Non, c'est de la faute des députés, mais vu que Monsieur arrive en nous expliquant qu'il est le grand justicier de sa circonscription.
J'ai pas dit ça.
Moi, je lui réponds, il est écrit noir sur blanc que votre métier, c'est de faire la loi.
Vous faites là. Vous vous dites que députés, ils surjouent, etc. Nous, on a le droit en circonscription d'avoir des vrais gens dans notre circonscription qui pleurent dans notre bureau. Et c'est pas surjoué de dire ça. Donc je vous permets pas, quand on essaie de défendre un cas, c'est vrai que madame a la raison, qu'on n'est pas foutu à l'Assemblée nationale de se mettre d'accord sur ce qui devrait être la protection de 15 millions de gens. Mais vous pouvez pas dire qu'on surjoue quand des députés, quel que soit le bord politique en circo, ils ont des vies. Quand vous savez ce qui nous donne encore le jus ? Aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est parce que concrètement, on arrive à régler un cas, un deuxième cas.
Mais je comprends pas pourquoi vous faites le procès du député Ramos.
Parce que je remarque qu'en citant.
Vous faites le procès de Ramos qui arrive, qui dit moi j'essaie à mon échelle de régler des problèmes et vous lui reprochez ça.
C'est extraordinaire.
Ah bah non, attends, on va faire le résumé. Moi, je remarque que
mais même si vous voulez pas d'émission d'Armanin,
c'est un excellent député, Richard Ramos, qui nous raconte des affaires très dures qu'il vit sur le terrain et puis qui s'agite beaucoup, qui crie beaucoup. Tout ça nous a permis.
On s'agite pas, monsieur. Respectez les gens qui viennent nous voir. On ne s'agite pas.
Tout ça nous a vous a permis d'esquiver la question de départ sur la démission de Gérald Darmanin.
Mais j'ai dit non. Qu'est-ce que vous racontez comme conneries? Mais vous racontez des conneries. Arrêtez de raconter des conneries. J'ai commencé par répondre non, il faut pas qu'il démissionne.
Alors, donc
il y a peut-être plein de Français, qui veulent qu'il démissionne.
Moi, je dis que 13 minutes on ne parle plus des dysfonctionnements.
Arrêtez de raconter des conneries.
Voilà, 13 minutes on ne parle plus des dysfonctionnements.
Bon, on va essayer d'avancer, monsieur le député, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'effectivement, l'indignation elle est générale. Elle est partagée par tous les Français. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Monsieur Darmanin dit il faut examiner les 70 000 dossiers en souffrance jusqu'au 14 juillet. Monsieur Lecornu propose d'être plus sévère dans la loi avec une perpétuité réelle. Il y a plein de...
Et puis il y a cette loi intégrale.
Il y a la loi intégrale également.
Moi, je prends ma part simplement de ce que disait madame de notre incapacité. Il n'y a pas de majorité, donc c'est les Français aussi qui l'ont voulu. Hein. Et donc c'est le bordel. Surtout sauf que sur ce cas-là, moi je pense que le Premier ministre doit réunir l'ensemble des présidents de groupe, tous les présidents de groupe, et qu'on arrive à trouver un chemin qui est dans l'intérêt des 15 millions de gens à protéger. Voilà. Et puis derrière, avec des avocats, avec des procureurs...
15 millions, c'est les 15 millions d'enfants, c'est
ce oui, exactement. Voilà, il y a 15 millions de cette jeunesse qu'il faut protéger, qui est fragile et qui peut arriver quelque chose. Et voilà. Et donc je pense qu'il faut, à l'Assemblée nationale, trouver un consensus. Je pense que c'est
vous y croyez à quelques mois d'une présidentielle?
Je peux y croire parce que, beaucoup de gens ont pensé que cette affaire-là était un fait divers. Mais c'est pas un fait divers.
C'est devenu un fait de société.
C'est un fait de société. Mais
personne ne croit que c'est un fait divers. Non, mais il y a la France est dans la rue.
Oui, mais de Monsieur temps en temps, pardon, les politiques, on n'a pas bien réagi. Les premières heures, on n'a pas pris la mesure de ce qu'était ce fait de société.
Mais en fait,
concret.
Peu importe. En fait, est-ce que vous vous rendez compte à quel point la société se joue à double niveau? Oui. Il y a le terrain, c'est-à-dire cette enfant qui est morte. C'est pas la première, ce sera pas la dernière. On le sait tous. Et dans la rue, les gens qui vont manifester, c'est pour la plupart des gens qui ont été eux-mêmes victimes d'agression ou d'inceste. D'accord ? Ça, c'est une réalité. Et à côté, il y a une classe politique qui nous explique, même dans votre groupe, le Bloc Central, que le Modem, c'est pas la même chose que la Macronie. La Macronie, elle change de nom tous les mois, je sais même plus comment elle s'appelle en ce moment. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est grave ?
Mais vous
m'expliquez que vous essayez d'aider Madame X ou Monsieur
Y. On va pas y revenir.
Mais c'est tellement grave.
Mais c'est pas grave.
Pardon, vous m'avez.
Pourquoi vous essayez pas d'aller trouver des majorités?
C'est ce qu'il vient de dire.
À l'échelle individuelle, qu'est-ce que vous pensez de la loi intégrale?
Moi, je vais vous dire, je suis pour la loi intégrale.
Proposition de loi intégrale. D'accord. Vous avez signé
quelque chose?
Vous avez signé?
J'ai été le député qui a signé des textes avec le RN, je me ferai traiter de fasciste. Je signe avec la gauche, je me fais traiter de gauchiste. Donc,
qu'est-ce que apporte cette loi intégrale? Parce que je pense que les gens n'ont pas encore saisi. C'est quoi la loi intégrale?
Je pense que sur la loi intégrale, il nous faut absolument mettre tous les ministères. C'est quoi une loi intégrale? C'est une loi qui prend plusieurs ministères ensemble pour faire une loi, alors que d'habitude on est sur une loi, on va dire, en silo, pour qu'on comprenne bien.
Oui,
et donc derrière, ça veut dire que le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et le ministère de la Santé doivent se mettre ensemble pour faire une loi qui réponde à l'ensemble de la problématique, notamment
ce qui va arriver. Encore une nouvelle loi.
Ah, mais alors vous avez raison, mais on n'a pas pris cette mesure.
Les lois existent.
On voit l'ASE, par exemple, sur l'ASE. C'est ce qui va venir derrière encore avec les drames.
C'est un scandale. Nous, on avait reçu ici un journaliste qui a fait une enquête accablante sur l'aide sociale à l'enfance.
Je vais pas donner, puisque ma femme est agréée par l'ASE, et donc on en a reçu à la maison. On les ramène ensuite dans les familles. Là aussi, faisons en sorte que, avant qu'il arrive encore, il y a déjà des drames dans l'ASE, il y a déjà des drames. Oui. Mais prenons un mail. Alors,
mais pourquoi on le fait pas? Qu'est-ce qui manquait jusqu'à présent? Parce que ce sont des enfants. Les enfants, ça vote pas, ça ne manifeste pas. Électoralement, c'est pas forcément payant.
Non, moi je le dis. Vous savez, c'est très simple. Dans quelques mois, on aura des élections, et je pense que ceux qui seront comme moi dans la majorité présidentielle, depuis quelques années, on ne sera pas réélu, parce qu'on méritera pas forcément d'être réélu sur ce qu'on a fait au national. On a quelque chose qui a été de l'ordre d'une espèce de voiture France, auquel, quand on monte dedans, il y a tout, il y a le volant, il y a le frein, il y a l'accélérateur, mais il n'y a plus de câblerie. C'est-à-dire que c'est comme si tout était là, mais il n'y a pas de câblerie pour faire marcher tout ça. Et plus on fait de l'interministériel, moins ça marche. Alors qu'il y a des endroits, c'est des endroits, etc. Et puis peut-être, pardon, de défendre les députés, quel que soit leur bord. Nous, dans la justice, là, on n'a pas le droit d'intervenir.
Non.
Alors on essaie d'intervenir un peu. Mais le couple, aujourd'hui, un préfet, par exemple, ne parle quasiment plus à un député, juste pour des inaugurations ou quelques réunions bienveillantes. Il va parler à un président de région, parce qu'il n'y a plus le cumul. Et donc, le rôle même du député est à remettre en cause dans sa relation avec le préfet. Moi, on sait très bien que les préfets, ils ont des relations avec les procs, et que les procs appellent les préfets. On le sait sur le terrain, même si c'est pas dit, c'est la réalité. Eh bien, faisons en sorte que nous, quand on remonte, peut-être au préfet, pas au proc directement des choses, les choses soient concrètement sur le terrain qu'on puisse
tout
le faire.
Réformer de fond en comble.
Mais alors, je pense que comme on l'a pas fait depuis 9 ans. Et comme on l'a pas fait depuis 9 ans,
et que vous le ferez pas dans l'année qui vient.
On fera pas dans l'année.
Soyons clairs vis-à-vis des Français, Monsieur Ramos. Là, il y a l'élection présidentielle qui arrive, il y a pas de majorité, il va rien se passer. Vous allez expédier des affaires courantes. On est d'accord.
Oui, alors,
vous avez le langage de vérité.
J'ai toujours essayé de dire.
Il va rien se passer d'ici l'élection présidentielle.
Vous avez. Mais je pense qu'on peut peut-être sur des sujets qui, là, celui-là, par exemple, avec l'affaire Diana.
Il faut une session extraordinaire. Voilà. Est-ce qu'elle peut avoir lieu cette session extraordinaire?
Moi, je dis qu'il faut qu'elle ait lieu. Faut qu'elle ait lieu le plus rapidement possible.
Y compris Sénat.
Évidemment, parce qu'on remette pas après au Sénat après l'été, par exemple. Il faut qu'on aille.
Il y aura les élections sénatoriales. Donc, il faut le faire maintenant.
Il faut qu'on aille très vite.
Et
s'il faut siéger cet été. On doit siéger cet été.
D'accord. Jean-Louis Bonamy, quelque chose à ajouter?
Il y avait une promesse.
Attention à ne pas dire de conneries quand même. Hein.
Ah. On écoute.
Il y avait une promesse du candidat Emmanuel Macron en 2017 qui était justement de construire les places de prison, de construire des places de prison supplémentaires. Ces places en 9 ans n'ont absolument pas été construites, une toute petite partie dérisoire, ce qui fait qu'en fait la justice gère, vous le savez très bien, la pénurie. Alors pourquoi cette promesse en 9 ans, qui est une promesse quand même fondamentale, n'a pas été tenue très loin de là?
Parce qu'on n'a pas voulu y mettre les moyens, parce que des fois dans les villes, les gens voulaient pas de prison. C'est-à-dire que les mêmes maires qui hurlent au micro, et quand on leur dit on va mettre une prison dans ta ville, ils en veulent pas. Et derrière, il y a toute cette norme qui fait que pour construire une prison, il fallait 6, 7, 8 ans. Voilà. Et puis après, parce que il y a eu des promesses du président qu'on pas été tenues, et c'est pour ça que les gens en veulent à ce président. Mais vous avez vu quand même qu'aujourd'hui, le ministre de la Justice a réussi, avec des prisons moins chères, plus rapides, à essayer d'aller plus vite que les autres.
Mais est-ce que votre message, c'est de dire en 2027, du coup, on a échoué, donc votez pour Jean-Luc Mélenchon, pour Marine Le Pen?
Non, je dis pas du tout ça, moi.
Non, c'est pas votre message? Vous venez de nous dire qu'en 9 ans, vous n'avez rien fait. Je veux pas.
Vous continuez à croire au principe du en même temps, c'est-à-dire les meilleurs à gauche, à droite?
Je crois que.
Les meilleurs, là, on les cherche. Plus que ça veut dire, les meilleurs.
En tout cas, si demain je ne croyais plus à essayer de faire quelque chose, j'arrêterai. C'est ça la réalité.
Non, mais pour la prochaine présidentielle.
Mais pour la prochaine présidentielle, il faut arrêter.
Vous avez votre candidat?
Non, mais non, mais moi, j'ai aujourd'hui, à date, personne en qui j'ai envie de rouler.
Votre président, François Bayrou, a fait une déclaration de non-candidature. C'est assez original.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, tous les deux jours, il y a un nouveau candidat. Je crois qu'on en est à 38.
Il y a plus de candidats que de Français.
Voilà, il y a quasiment plus de candidats que d'électeurs ou de gens qui ont vraiment envie de voter. Et là, lui, il est pas candidat. Donc, vous êtes orphelin, vous avez plus de candidat.
Non, moi, je le dis, j'ai pas à date, j'ai pas quelqu'un sur lequel je me dis j'ai envie d'y aller, quoi. Je le dis très sincèrement.
Ni Edouard Philippe, ni Gabriel Attal.
Non. Je à date, ça me donne pas envie. Je le dis très sincèrement. Ça me donne pas envie.
Même Jérôme Guedj, par exemple.
Vous faites monter les enchères.
Mais Monsieur Ramos,
non, je fais pas monter les enchères. C'est que il y a des choses, je veux pas faire la littérature de ce qui a marché, parce qu'il y a eu des choses qui ont marché. Quand on regarde le nombre de plaintes qui a été déposées, qui ont été instruites, ça a progressé, mais pas assez vite. Et donc je veux pas faire celui qui dit regardez, ça a marché, voilà ce qu'on a fait. Et puis en plus, je pense que il faut monter un collectif. On a dit depuis 9 ans, Macron, Jupiter, machin, etc. Et on commande sur les micros comme quoi il va falloir trouver un nouveau Jupiter. Moi, je voudrais que... et je pense pas, d'ailleurs, que c'est les...
Parce que la Ve République, c'est ça.
Oui, mais je sais bien. Je pense que la vraie question aujourd'hui, c'est pas ce que je mets dans le programme. C'est comment je rétablis la confiance entre une classe politique et des gens qui n'y croient plus.
Dernière question, non, Charles Consigny.
Non, je sais pas si c'est une question, c'est plus un constat. Je crains quand même, je suis sûr que vous êtes un élu d'excellente qualité, vous avez une excellente réputation, mais on voit que là, la Macronie termine en eau de boudin, en réalité. Le bloc Lambeau. Central termine en haillon. Et ça se finit mal parce que ça ne pouvait finir en réalité que comme ça. La destruction des clivages politiques au sein de ce qu'on appelle pompeusement l'arc républicain, ça aboutit forcément à ce qu'en fait, les extrêmes prennent une place énorme et de plus en plus grande. Et donc là, sauf miracle, on va vers un affrontement extrême droite, extrême gauche. Et malheureusement, ce sera ça le résultat du dépassement. Donc, est-ce que le centrisme, c'est pas une connerie quand même?
C'est pas moi qui donne des bons points, Monsieur Consigny, mais la question, elle est bonne. Moi, je me suis trompé. Je me suis trompé parce que moi-même, je pensais que dans cet espace que vous central ou modéré, on pouvait faire travailler des gens qui pensaient pas tout à fait la même chose. Et derrière, c'est ce bloc-là. C'est une bêtise parce que ça a fait ce que vous avez dit. Mais j'y ai cru, moi. En 2017, j'y croyais à ça. Je croyais que des gens qui pensaient pas tout à fait la même chose. Mais en fait,
désormais, les oppositions se sont radicalisées.
En fait, ça a fait monter les deux blocs, comme vous le décrivez. Et au milieu, c'est la course des petits chevaux pour la présidentielle. Et surtout, je suis un laïc, etc., mais je suis un amoureux de la vie de Jésus. Et donc, derrière, j'avais quelques valeurs démocrates chrétiennes qui étaient mon parti politique. Et tout ça, c'est des courses de petits chevaux avec des gens dans un truc qui est gazeux. C'est-à-dire que l'espace central aujourd'hui, c'est un espace gazeux.
On ne sait pas ce qu'ils pensent, ça que vous voulez
donc,
dire.
Non, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Et d'ailleurs, ils ne pensent pas du tout la même chose. Parfois même, il peut y avoir des gens, j'ai dit qu'il y avait deux candidats qui ressemblaient à des vases, où c'est beau, c'est joli, ça se déplace, mais le principe d'un vase, c'est que c'est creux à l'intérieur.
Merci, voilà. Monsieur le député Ramos, d'être venu parler avec les GG, avec les grandes gueules.
C'est une vraie grande gueule.